Vous écoutez
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Richard Gasquet qui sort Stan Wawrinka. Énorme victoire du Français, peut-être la plus belle de sa carrière.
C'était le bon temps.
Bien sûr que c'est dur de passer après une génération où les 4 ont été dans les 10. Le public français attend aussi la suite et espère des grands matchs et des grands joueurs sur les gros tournois. Et honnêtement, c'est ce qu'on espère faire aussi.
Ouais, c'est fait! Retour dans le filet, ne croit pas ses yeux. Gaël Monfils en demi-finale de Roland-Garros.
Joe Wilfried Tsonga est en demi-finale de Roland-Garros. Il en tombe à genoux.
Ah, c'était une grande époque. Qu'est-ce qui s'est passé?
On est une génération française, c'est vrai, qui arrive un peu plus sur le tard que celle d'avant. Chacun son rythme, on n'aura pas non plus tout le temps des années d'or dans le tennis français.
Il me manque tellement.
On est peut-être moins fort pour le moment, mais on s'accroche, on fait de notre mieux.
Après moins d'une semaine, Caroline Garcia est donc la dernière survivante à l'Open d'Australie. Cette nuit, la logique a été respectée. Les deux derniers Français ont été sortis au troisième tour, Benjamin Bonzi et Hugo Humbert, respectivement par Alex de Minaur et Holger Rune, tous les deux balayés en 3-7. Benjamin Bonzi, que vous venez d'entendre dans la production, a également ajouté à propos de l'héritage lourd à porter, ça dépend si vous nous tirez dans les pattes. Comprenez ? Les médias, la musique qui fout les jetons. Et cette question, faut-il foutre la paix aux joueurs français, les laisser tranquilles? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Non.
Stephen Brun?
Non.
Denis Charvet?
Non.
Incroyable. David Douillet?
Oui.
Il y a un oui avec David, la sagesse. Avant de débattre, on va retrouver donc notre envoyé spécial en Australie, Eric Salio. Il suit actuellement, Eric, le match de Caroline Garcia, mais tu as pu suivre les deux Français qui n'ont rien pu faire cette nuit.
Oui, absolument. Les deux Français ont connu la défaite à chaque fois en 3-7 contre des joueurs qui étaient mieux classés. Donc c'est pas honteux. Et c'est vrai que Hugo Humbert a totalement raté son match. Il a été assez franc en conférence de presse, 6-4, 6-2, 7-6. Et puis Benjamin Bonzi, bon lui, je pense qu'il n'est pas totalement récupéré de son combat contre Carlo Busta. Il a accroché de mineur pendant une heure. Et malheureusement, au tie-break, il fait pas un point. Il prend 7-0 et c'est plié. Après, il a pris 7-6, 6-2, 6-1. Donc voilà. Mais Benjamin Bonzi, quand même, sera lundi 30 janvier le nouveau numéro 1 français. Alors vous allez me dire c'est génial pour lui, et puis vous allez me dire aussi oui, mais il sera aux alentours de la 42e place mondiale, et ça c'est pas acceptable. Enfin acceptable, bah, c'est pas l'expression. Quand on a connu ce qu'on a connu, c'est vrai que c'est, il y a pas de quoi sauter au plafond. Donc voilà, la situation elle est ce qu'elle est. N'oublions pas que l'an passé à pareille époque, Gaël Monfils avait atteint les quarts de finale. À la Monf, il manque terriblement au tennis français. On sait qu'il va rejouer dans peu de temps à la mi-février, mais c'est vrai qu'il y a des trous. Il y a des trous dans le tamis.
Des trous dans le tamis. Bravo, mon cher Eric
Salio. C'est dans le tamis.
petite précision, break pour Caroline Garcia hein, à l'instant.
Absolument, mais je t'ai lancé chez les garçons, je suis désolé. 4-2 pour Caroline Garcia, ça va beaucoup mieux.
Faut-il
laisser 6-5 Dimitrov, et là ça va moins bien pour Djoko.
Ok, parfait, on suit ça avec toi évidemment toute la matinée. Faut-il les laisser tranquilles, nos joueurs français? Faut-il leur foutre la paix? C'est non, Stéphane Morin, pourquoi non?
Bah, déjà je trouve que ce soit un petit peu cocasse que ce soit Benjamin Bonzi qui lâche cette phrase-là, puisque personne en dehors des spécialistes connaissent vraiment son existence à Benjamin Bonzi, donc personne n'a vraiment d'attente sur ses résultats pour lui qui est le spécialiste des tournois Challenger. Que ça vienne d'Humbert ou de Moutet à la rigueur qui ont eu des bons résultats très tôt, qu'on soit dur avec eux, oui, Benjamin Bonzi, bon, bah, il veut se faire le protecteur du tennis français, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas foutre la paix aux joueurs français, parce que il est hors de question pour moi d'occulter que le tennis est un sport ultra populaire en France, avec une fédération qui dispose des moyens financiers et d'infrastructures énormes. On accueille l'un des 4 plus grands tournois au monde. On a une vraie culture de tennis. On a eu un vainqueur de Grand Chelem. On a eu de multiples garçons dans les 20 meilleurs joueurs du monde. Donc, on a le droit d'avoir un niveau d'exigence assez élevé pour nos représentants français. Qu'un pays comme la Suisse puisse être tolérant pour les garçons qui viennent après Federer et Wawrinka, moi j'ai aucun souci là-dessus. Hein. 8 millions d'habitants, 2 garçons qui ont gagné 23 grands chelems, forcément l'héritage il est lourd à supporter. Après il faut aussi se rendre compte que autant on a été très sévère, je trouve, et bien plus qu'avec nos représentants actuels sur les 4 mousquetaires, Gasquet, Monfils, Tsonga et Gilles Simon, on a été très sévère avec eux pour se rendre compte que maintenant qu'ils sont plus là, et ben qu'on avait du caviar avec eux, et que ben malgré tout ils nous ont
On compare toujours par rapport à une génération antérieure, surtout lorsque celle-ci a brillé. Les mousquetaires Gasquet, Monfils et Tsonga, on les comparait forcément aux vrais mousquetaires, ceux des années 20 qui avaient tout remporté. Et là, quand on compare ceux d'aujourd'hui justement à Tsonga et Gasquet, on a l'impression qu'on régresse à chaque fois entre les générations. Évidemment que quand les anciens n'ont pas eu les résultats avant, c'est exceptionnel. Rappelez-vous quand la bande à Costantini en Inde a commencé à remporter ses premières médailles en 92 à Barcelone et puis champion du monde en 95. Avant eux, il n'y avait rien eu. Donc c'était extraordinaire de voir cette génération briller et commencer à tout gagner. Et maintenant, aujourd'hui, on les compare à ceux d'avant. Donc il y a toujours une comparaison, mais on va pas abandonner notre esprit critique, évidemment. Comme le disait Steve, on a quand même l'une des fédérations les plus riches au monde qui est assise sur un trésor de guerre qui est Roland Garros, qui permet à tous ces jeunes d'avoir des conditions d'entraînement extraordinaire, et donc c'est pas normal qu'une fédération aussi riche que la Fédération Française de Tennis n'arrive pas à avoir des générations sur la longueur, et voilà.
Ok, ce n'est pas normal, donc il ne faut pas les laisser tranquilles, il faut les challenger tout le temps, j'ai bien compris. Il n'est pas d'accord avec vous, David Douillet, pourquoi faut les laisser tranquilles ?
Moi, j'ai toujours été surpris qu'on parle d'illustres inconnus qui n'ont pas gagné dans le monde du tennis. Et j'ai toujours fait le comparatif avec le judo. Si on parlait de tous les tournois de judo qui existent et de tous les athlètes judokas qui sont pas encore connus, qui perdent en quart, en demi, en huitième ou quelquefois gagnent, on n'en parle pas d'eux. Et pourtant, on est une grande nation. Je reprends les termes de Stephen. La Fédération Française de Judo est une grande nation du
Oui, mais il y a une continuité dans les résultats de la Fédération Française de Judo, David. Oui, depuis 50 ans, vous amenez des champions olympiques tous les 4 ans.
Et on parle pas de gens qui sont en train d'émerger, qui vont peut-être le devenir, des grands champions. On n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on parle des grands athlètes dans le monde du judo que lorsqu'ils sont champions du monde ou champions olympiques. Sinon, on n'en parle jamais. Dans le tennis, un autre traitement. Pourquoi ? Ben, je vous pose la question, monsieur.
Parce qu'il y a des tournois
pourquoi
tout le temps.
Pourquoi on parle de gens qui ne sont pas... Regarde, tu viens de le dire, le numéro 1 français, il est 42e mondial. Bon, ok, très bien, super. 42, pour moi, c'est une température. Il fait très chaud. Mais c'est pas un classement. Voilà, c'est tout. Et donc, ces gens-là, on en parle. Mais pourquoi ils perdent pour l'instant ? On en parle, ok, et on les suit une fois qu'ils ont gagné. C'est ce que dit Stéphane, et ça, il a raison de dire ça.
Mais sinon, avant, ça sert à rien.
Faut leur foutre la paix.
Ok, on commence à quoi? 20e mondial, dès qu'ils commencent à gagner un.
Ça veut dire qu'on parle pas de
dès qu'ils commencent à gagner, dès qu'ils commencent à rentrer dans le top 10, tu vois, tu commences à les suivre. Sinon, ça n'a pas de sens.
Je suis désolé, mais les mecs qui rentrent dans le top 10, on parle pas. Je suis pas sûr qu'on parle d'eux souvent.
Eh ben, on en parle pas. Ils méritent pas qu'on en parle. Je suis désolé, voilà.
Il y a de la frustration dans les propos de Bonzi. De toute façon, après, moi, je pense sincèrement qu'il faut en parler, quoi, qu'il faut les bouger, qu'il faut les, faut leur taper dessus.
Ça, ah bah non, oui, t'as vu comment ça marche.
Il y a deux débats. Là, je vous rejoins pas, c'est qu'il y a le débat public et il y a le débat des journalistes. C'est pas le même. C'est-à-dire qu'il y a le regard des journalistes qui est très exigeant, qui est, mais oui, c'est ce boulot-là qui fait qu'à un moment donné, ben, t'attends toujours d'un joueur.
À part Eric Sadio, il y a personne qui parle de Bonzi, en plus.
De devenir un champion, on attend toujours un champion. Et moi, je pense qu'il y a le domaine public, et le public est beaucoup plus, tolérant. Et la vérité, c'est que c'est un problème générationnel. C'est pour ça que ce débat, il m'ennuie tout le temps. Parce que, les générations, on reproche à des générations comme Gasquet et Truc de pas être allé plus haut. Mais déjà, ce qu'ils ont fait, c'est formidable. Mais pourquoi on attend d'eux d'être allés plus haut alors qu'ils sont peut-être pas capables, tout simplement?
Parce qu'on les a toujours comparés. Mais aujourd'hui, Riner, on l'a comparé à David Douillet.
Mais dans tous les sports, Christophe, dans tous les sports, le rugby, le football, tu compares tout le monde.
Toujours.
Mais oui, mais c'est ça qui est terrible.
C'est pas de leur faute, évidemment.
Mais oui, évidemment.
Est-ce que vous n'êtes pas posé la question à un moment donné, puisque nos amis, malheureusement, du tennis depuis Yannick Noah, on gagne pas. On gagne plus, en tout cas chez les masculins. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question que de parler toujours de gens qui gagnent pas, ça met pas en fond de tableau une couleur qui est tout le temps grise. On ne parle de gens qui ne vont pas jusqu'au bout, qui perdent en demi, en quart, qui gagnent un tout petit tournoi mineur dans un coin, etc., etc. Il y en a pas un qui gagne un grand chelem. Donc cette coloration journalistique, est-ce que inconsciemment, elle ne touche pas directement ou indirectement, les joueurs, même quand ils sont petits.
Je vais pas prendre la défense des journalistes, des journalistes, mais t'es obligé d'avoir un regard quand t'es journaliste par rapport à la qualité, au talent de du champion. C'est-à-dire que pourquoi on était frustrés? Parce que justement, mon fils ou son gars avait les qualités pour qu'on gagne un grand chelem, qu'ils l'ont pas fait. Mais pour des raisons qui leur sont propres. Qu'elle soit mentale, qu'elle soit ce que tu veux, mais.
Et puis pour les raisons de concurrence, surtout aussi.
Et de concurrence aussi. Mais non, mais je veux dire, c'est pas passé loin, mais ils l'ont pas fait. Donc tu peux pas reprocher aux journalistes, à un moment donné, d'être exigeant par rapport au niveau de performance de certains.
Je sais.
Ça, c'est pour moi, c'est mon sentiment, hein.
Si tu prends une balance et que tu regardes les reportages positifs ou négatifs par rapport aux résultats dans le monde du tennis, excuse-moi, la balance pose largement du côté du négatif. Est-ce que cette ambiance négative qui est orchestrée, mais très justement, je dis pas que c'est injuste, de par des journalistes qui font leur métier et qui disent, bah voilà, ils perdent et ils reperdent, n'instaure pas au fil des ans une espèce d'ambiance grise qui fait que, bah ouais, ça plombe les jeunes générations.
Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que le vrai champion, et puis s'il écoute rien, il trace sa route. Je pense que, c'est mon point de vue.
Faut-il les laisser tranquilles? C'est notre débat. Vous êtes sur RMC, donc les grandes gueules du sport. Dans quelques instants,
parlons de tennis de table. Si les Français sont pas capables de gagner, on ne parle plus de tennis. Et parlons de ping-pong, parlons de judo, parlons d'autres choses. Quoi.
Après le tennis, c'est un sport populaire, mais un sport particulier aussi, parce qu'il y a qu'un vainqueur, il y a que quatre énormes tournois qui sont quatre tournois du Grand Chelem, et qu'en général, il y a plus de perdants que de vainqueurs sur un tournoi. Donc oui, maintenant, on est peut-être dans un creux. Je vous rappelle que les États-Unis, depuis Andy Roddick, n'ont pas gagné un Grand Chelem. Et les États-Unis, si on parle de fédération puissante au niveau du tennis et à l'aise financièrement, c'est bien les States.
Ouais,
et
aujourd'hui, les Anglais, les Australiens,
il y a eu un creux. Et aujourd'hui, les Américains, il y a 8 Américains au troisième tour de l'Open d'Australie avec des garçons surprenants comme Shelton, comme Wolf, qui c'est là qu'on découvre. Donc peut-être que Toto Wolf. Et peut-être que la France, ça va arriver aussi. Donc laissons à ces garçons-là un peu de temps, mais on est obligé d'avoir un regard critique parce que le tennis,
c'est la France.
Oui, mais
donc on est obligé d'avoir un regard critique.
Je suis en train de convertir Stephen.
Non, pas du tout. Laissons-les tranquilles. Là, de ne pas avoir un Français une nouvelle fois en deuxième semaine,
c'est une catastrophe.
Ça fait tâche.
Ok, Caroline Garcia, il reste quand même une Française dans cet Open d'Australie. C'est son troisième tour. Elle sert pour le set pour égaliser une manche partout, Eric Salio.
Absolument. Après la perte du premier set 6-1, il y a une belle réaction de la Lyonnaise puisqu'elle mène 5-3, 30-15. C'est Game Mode est un petit peu moins précise, moins virevoltante, et donc Caro, elle a plus de temps pour mettre son jeu en place. Je voulais juste pour mettre de l'eau à votre moulin. On a calculé depuis la victoire de Noah, on a disputé 150 tournois du Grand Chelem. 154. Voilà, 154 tournées Grand Chelem sans décrocher le pompon. C'est vrai, ça commence à faire beaucoup.
Et pour aller plus loin sur la stat, depuis 46, 300 tournées du Grand Chelem chez les hommes, une victoire française et le reste du monde, les autres.
Mais voilà. Il faut croire que la génération,
il se barre avec ta stat, c'est pour ça.
On a fait 1 sur 300 en fait.
Oui, mais Stephen, tu es contradictoire. Tu parles des Américains qui ont eu un problème de générationnel pendant des années et qui repartent. Donc on en revient, problème générationnel.
Sauf qu'avant, ils ont gagné des
Oui, d'accord.
Avec Jim Courier.
Et nous, avec les anciens, les 4 mousquetaires et tout, on a gagné il y a très longtemps.
À 7 partout, les grandes gueules.
Ok,
c'est partout à l'instant.
Vas-y, Eric.
Heureusement qu'il y a les filles.
Là, il faut en parler.
Ok, donc ça fait 6-3. Caroline Garcia qui a perdu le premier set. 6-1, on va donc avoir un set décisif, magnifique, dans quelques instants à suivre. Sur RMC, on referme cette page Open d'Australie, mais on reste évidemment avec notre ami Eric Salio.